Voilà, voilà, vous avez reconnu le générique Herbie Hancock de l'émission de Chronique Hebdo, Cantaloupe Island. Et ce matin, on va dire bonjour déjà à tous les auditeurs qui nous écoutent de France et de Navarre et puis du monde entier, puisqu'on a des auditeurs, on le sait, en Belgique, en Suisse, en Thaïlande, au Québec, à Barcelone, à Madrid. Et puis, j'en oublie encore plein certainement. Mais alors, on leur dit bonjour. Et puis, continuez à nous écrire parce que c'est bien, ça stimule un petit peu les neurones. Et puis, donc, aujourd'hui, 27 avril. 26 avril.
Tchernobyl.
26 avril, oui, Tchernobyl. Mais on va peut-être... parler avec un invité, oui, on prévient, l'émission commentaire de l'actualité commencera plutôt vers 11h, puisque nous avons un invité, et peut-être ce matin, on va peut-être parler de comment est-ce qu'on regarde une œuvre, comment on écoute une émission aussi, parce qu'on peut avoir des surprises, on dit des choses, elles sont interprétées de différentes manières, comment on lit un livre, c'est un peu pareil, quoi, le regard de celui qui lit, les oreilles de celui qui écoute font que les discours ou les œuvres et tout sont perçus différemment. Alors aujourd'hui, on tient pas seulement la peau d'un invité, mais un invité qui fait partie d'artistes, les artistes de la peau de l'ours, et qui s'appelle Bernard Thomas Roudex, qu'on a déjà reçu... D'ailleurs, aujourd'hui, on l'a fait lever un peu moins tôt que la dernière fois.
Au mois de février.
Il avait été très courageux pour venir quand on faisait une émission à 8h du matin. Il était venu. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus tard, un peu plus tranquille, à 10h. Et donc, voilà, on est content de recevoir Bernard Thomas Roudex, peintre, sculpteur et annexement ami. Voilà.
Et ça va nous changer du discours sur l'actualité politique que nous tenons et que nous continuons à tenir à partir de 11h. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'à force d'entendre parler de la mascarade électorale, les auditeurs de Radio Libertaire nous ont dit qu'ils étaient un peu fatigués. Donc on va effectivement leur donner un peu de respiration avec Bernard Thomas.
Alors Bernard Thomas Roudex était venu, il y a à peu près un an.
Oui, hein,
c'était pour une exposition qui a eu lieu, on appelle ça ce lieu le SEL, S-E-L, situé à Sèvres, oui, dans les Hauts-de-Seine. Et alors là, c'était une exposition, c'était important, hein, puisqu'on avait dit qu'il y avait eu quand même un événement par rapport au nombre de personnes qui étaient passées dans ce lieu pour voir. Alors là, l'exposition, comme Josie, tu as évoqué la peinture et sculpture, donc des sculptures et des peintures. Et alors aujourd'hui, donc tu viens nous voir justement pour parler de différentes choses, puisque on a évoqué tout à l'heure l'association de la peau de l'ours. Alors c'est un petit peu pour rigoler, puisque Jacques t'évoquait les élections, ça concerne certains candidats. Il ne faut pas vendre, paraît-il, la peau de l'ours, hein, pour eux. Peut-être qu'on met ça sera vers 11h.
C'est juste.
Et donc ce matin, de nous parler de ton travail, mais aussi justement de cette exposition qui va avoir lieu à compter du 3 mai 2012 jusqu'au 13 mai à la galerie Toute Latitude, qui est située 38 avenue Franklin Roosevelt à Vincennes. Hein, Vincennes, donc pour les auditeurs de province et hors de l'Hexagone, c'est dans le Val de Marne.
Oui. Et je crois que ça ne doit pas être très loin du métro Château de Vincennes.
Ah, c'est au métro Béraud.
Ah non, métro Béraud, juste
c'est
avant.
C'est la station avant.
Ouais, ouais. Ouais.
Alors cette exposition, Bernard, il y a peinture, sculpture, céramique, enfin pour toi, et puis aussi les peintures de Pierre Guerchet-Jalin. Ouais. Mais on avait aussi évoqué tes talents d'illustrateur, de dessinateur, en particulier un ouvrage qui vient d'être publié, Et cet ouvrage, c'était un petit peu ce thème-là, donc d'un itinéraire, d'un plouc, hein, un plouc chez les bobos. Alors en ce moment aussi, vous voyez, il y a des correspondances. On va faire ce matin pour les auditeurs par rapport à cette première et deuxième partie. Ouais. Et le plouc chez les bobos, bon, illustre un petit peu. C'est l'histoire d'un journaliste qui est journaliste en Suisse,
oui, qui est voilà. correspondant pour la Tribune de Genève à Paris.
À Paris, et qui est venu donc...
qui fait partie de notre association La Peau de l'Ours.
Exactement. Et alors cet ouvrage que tu as illustré, cet ouvrage, alors c'est les tribulations d'un journaliste de la Tribune de Genève dans le Paris bling-bling, il y a
oui,
un peu ça.
C'est-à-dire, c'est les chroniques qu'il a écrites pour son journal depuis 2007 sur la vie politique, sociale, etc. En France. Donc, il a réuni cet ensemble d'articles pour les faire paraître dans cet ouvrage qui vient d'être publié, donc qui s'appelle un plouc, c'est le quinquennat d'un plouc, hein, c'est ça.
Exactement.
Ouais. Alors le plouc, c'est lui qui se définit comme un plouc.
Oui, parce qu'on pourrait écouter voilà. ça, hein, là, en même temps.
D'accord.
Les
ouais.
correspondances, on a dit un petit peu ce matin, ouais, un ouais. plouc chez les bobos.
Voilà. Ouais. Donc en arrivant à Paris, il s'est trouvé quand même dans un milieu qui l'a un peu surpris et qui est de plus en plus un milieu effectivement un peu de bobos entre guillemets. Bon, enfin, qui est bobo, qui ne l'est pas, ça je laisse à chacun le choix.
Pour
de
la
décider.
Population parisienne, voilà. On l'a déjà évoqué.
Donc,
ouais,
voilà.
dans cette
donc
émission.
Lui, il s'est senti un peu de façon humoristique, un peu plouc dans ce milieu-là. Il s'est défini comme ça et il a intitulé son le blog d'ailleurs qu'on peut voir sur Internet est intitulé de cette façon un plouc chez les bobos. Quoi. Et donc, il fait paraître ses chroniques sous ce titre, et là, il a réuni cet ensemble de chroniques,
et tu as illustré, alors voilà, c'est pour ça, par rapport.
Quand il m'en a parlé, bon, il m'en a parlé de façon humoristique, et je lui ai proposé, enfin, j'ai émis l'idée que ça serait bien d'avoir des illustrations qui aillent avec. Donc, il a bondi sur l'occasion, et on a parlé à son éditeur, et puis ça s'est fait comme ça, quoi, gentiment, quoi, mais, voilà.
Et dans quel milieu, donc, il a fait ses chroniques?
Comment?
Journalistique ou bien dans
oui,
le
oui.
milieu des hommes politiques ou
non,
dans
non,
le...
c'était en des chroniques pour la Tribune de Genève.
Oui, mais les sujets étaient liés à tel ou
à... Ah ben, à des événements politiques,
un événement
des événements sociaux. Il parle de ce qui se passe dans les banlieues, il parle enfin de tout ce qui... même de sujets culturels, bon... où il est d'ailleurs en contestation pas mal, justement, avec une certaine forme d'art contemporain qu'on essaye de nous asséner, quoi, etc. Quoi.
Et là, j'ai remarqué aussi ce qui signalait, enfin, intéressant, on mettait par rapport à l'ouvrage, entre larmes, rire et colère, essayer de comprendre ce pays, c'est-à-dire l'Hexagone, pour un ouais. Suisse si proche et si lointain.
Ouais.
Donc c'est intéressant, là aussi,
fait, ouais.
de voir... alors, là, les illustrations donc sur le périple hein, de ces cinq années donc en Sarcolande, mais aussi, alors, justement, on l'a cité au début de l'émission, cette exposition, alors, on va avoir plusieurs, alors, dessus... plusieurs, évidemment, créateurs, peintres, sculpteurs. Et on l'a dit tout à l'heure, l'association La Peau de l'Ours. Hein. Alors, évoquez cette association dont vous faites partie, un petit peu son origine, enfin rapidement. On en a un petit peu parlé avant cette émission, son origine, et puis un peu le but de cette association. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité, justement, de réunir des créateurs, des artistes, des peintres, peintres, sculpteurs, et de voir dans... actuellement, justement, par rapport à l'art contemporain et aussi l'état des lieux, hein, l'état des lieux en 2012 dans cette société, dans ce pays, quelle est justement sa particularité de cette association et votre projet par rapport à cette exposition?
La particularité de la Peau de l'Ours, c'était déjà de... Enfin, j'espère ne pas trahir trop l'idée et le propos de Philippe Rion. Mais l'idée, c'était de réunir des gens donc intéressé par une certaine forme de création et en retrait quand même par rapport à tout un autre aspect de la création contemporaine qu'on essaye de nous imposer, de nous faire avaler et qui ne nous satisfait pas, quoi. Donc, ça n'est pas seulement une réunion d'artistes, mais c'est une réunion, c'est une association qui cherche à réunir des amateurs d'art, des gens, des critiques d'art, éventuellement, des galeristes s'il en est, des poètes, donc tout un ensemble de gens qui se retrouvent autour de cette même idée. Et ce besoin et cette envie de réajuster un peu les choses au niveau de la création artistique, enfin bon, dans un sens qui est celui qu'on estime légitime. Donc c'est pas un mouvement si tu veux de...
C'est pas l'art brut, par exemple.
Mais non, c'est pas un mouvement qui réunit un certain nombre d'artistes qui vont dans la même direction au point de vue création plastique, mais qui acceptent quand même une diversité des cheminements artistiques, puisque bon, il y a sans doute pas une seule vérité, mais plusieurs, et qui nous paraissent quand même à chaque fois être en conformité avec certains principes et certaines valeurs que cherche à défendre la peau de l'ours.
Alors, juste ça, dans le manifeste, donc dans le petit catalogue hein, sur cette exposition, élargir les publics de l'art contemporain, ça d'accord, mais en revalorisant, surtout insister, la notion d'œuvre. Alors pourquoi ? Là, justement, on valorise la notion d'œuvre.
Parce que la notion d'œuvre, je pense, est quand même un peu mise à mal dans certains domaines, quoi. Il y a un certain nombre de personnes, depuis quand même 10-15 ans, qui commencent un peu à contester pas mal de choses. Je pense là, en priorité, à un livre comme à des livres comme ceux qu'a écrit Jean-Philippe Domecq, où il fait quand même, il démonte quand même un discours qui tente à défendre un certain nombre d'œuvres qui sont difficilement justifiables, enfin de notre point de vue. Donc c'est aussi de retrouver ce qui a été un peu mis en marge et sous-clé par une certaine une certaine façon de voir contemporaine d'un certain nombre de personnes, donc qui élimine complètement des valeurs justement qui peuvent se relier à la création de la peinture ou de la sculpture, et ayant éliminé ces valeurs, purement et simplement, décide que ça n'a plus cours et que ça doit être autre chose qui doit être mis en avant. Donc, si tu veux, nous, on part du principe que ce qui fait la création artistique reste toujours valable au même titre que ça l'a été pendant des siècles, et qu'il n'y a aucune raison de mettre ça, je dirais, à la poubelle, en disant que bon, ça n'a plus cours comme ça, brutalement, et puis de décider que c'est autre chose qui est intéressant. Parce que dans cette perspective, on détruit finalement la valeur de travail sur l'œuvre, tout un tas de principes et de considérations qui font que un travail, une peinture, une sculpture reste vraiment authentique et intéressante. Avec évidemment en mettant des réserves. Toutes les œuvres ne sont pas forcément géniales, même si elles sont appuyées sur ces valeurs. Après, il y a d'autres éléments qui interviennent. Mais de voir comme on essaie de nous faire accepter, beaucoup de choses qui sont montrées aujourd'hui. Oui. Qui sont l'idée comme ça qui apparaît brusquement, qui est basée sur aucune recherche, aucun travail, et qui ne fonctionne qu'avec l'appui d'un discours, ce discours permettant effectivement de broder autour d'un objet X et d'en dire tout le bien et toute la tout ce qui en ferait la valeur. Bon, c'est pour nous c'est complètement hors de question ce genre de propos, parce que bon, une fois que t'enlèves le discours, ben l'œuvre, est-ce qu'elle continue à tenir? Ça, c'est point d'interrogation qu'on peut poser.
Oui, et puis il y avait aussi ça, enfin depuis plusieurs dizaines d'années, hein, donc ça a commencé on voulait mettre tout au même plan, c'est-à-dire n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine de la musique, et là aussi dans le domaine, alors tu dis pictural, tracer un trait, ça suffirait simplement parce que la personne le ressentirait, et donc ça aussi, ça reflète l'idéologie d'une époque où tout est d'égale valeur. Alors ça, justement, tu le dis par rapport à sur une radio anarchiste, mais on pourrait justement aborder ce thème-là, que il y a une, à chacun, alors évidemment de l'expliquer, une hiérarchie, en tout cas des valeurs, une hiérarchie des valeurs, et que le système capitaliste dans lequel nous sommes, c'est de faire qu'il y avait, de faire croire, hein, que tout a égal, tout est sur le même plan. Ce qu'on a vu justement dans des domaines comme on l'évoque souvent par rapport à l'ensemble des médias ou par rapport à l'ensemble des programmes de télévision ou comme ne serait-ce que pour le cinéma, il suffirait de se saisir d'une caméra vidéo pour pouvoir se dire l'égal peut-être d'un Godard, en tout cas en tant qu'auteur ou créateur de cinéma, et de donner l'illusion à tout le monde de dire même aussi la même chose dans la chanson. Il suffit d'écrire trois mots sur une feuille de papier, et là aussi on faisait penser et croire à l'ensemble des individus qu'ils pouvaient tous être artistes, et que toute création, enfin là c'est même pas des créations, mais tout mouvement culturel pouvait être d'égale valeur avec tout ce qu'on pouvait observer dans l'histoire justement de l'art. Ouais, bon. Et ça aussi c'est un peu le système, enfin bon, nous on voit ça comme ça depuis très longtemps, le système capitaliste en même temps, qui met quelle valeur sur quoi, ce qui a fait que justement dans ce domaine-là, on le voit bien aussi, puisque au départ de la peau de l'ours, on parle de certains peintres comme Masson ou artistes comme Picasso, de dire que en 1905, au départ de la création de cette association, ils s'étaient d'illustres inconnus, et maintenant les œuvres atteignent des chiffres absolument phénoménaux, et peut-être, comme on dit, valeur refuge. Et là aussi, c'est totalement inconsidéré. C'est d'une n'importe quoi. Ouais. Et donc la même chose, ces valeurs-là, alors sont dites entre guillemets des valeurs refuge, je ne sais pas, pour des spéculateurs avec des milliards de dollars. Et puis d'autres domaines, des artistes. Alors et là, il y aurait pas d'argent, il y aurait rien du tout, il y aurait aucune reconnaissance. Et là, ça obéirait juste au marché. Alors hein, tu le sais, on en a parlé avec Damien Hirst, par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait au niveau où l'exposition au château de Versailles, d'art contemporain, à qui on attribuait des valeurs gigantesques par rapport à ça. Donc,
c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point aujourd'hui où, contrairement à une certaine époque, où la plupart des artistes étaient assez, je dirais, entre guillemets, désintéressés. Bon, enfin, intéressés toujours à vendre leur production, c'est ce qui est normal. Mais aujourd'hui, on arrive à un état où ça n'est que le support argent, capitaux, qui décide des choses. Alors, d'une part, il y a des gens parce que il y a des gens aussi qui décident qu'ils sont artistes. Il suffit qu'ils déplacent un verre de 2 cm pour dire, ben voilà, j'ai fait ça, je suis artiste. S'ils ont le discours pour le défendre et le faire valoir, eh ben ça va marcher autour. Et puis après, derrière, ben il y a tout le poids d'un marché. Et ce que je trouve, c'est que aujourd'hui, finalement, on a, par rapport aux créations qui sont faites, moins un jugement qui est d'ordre qualitatif qu'un jugement d'ordre quantitatif. Parce qu'on te dit, voilà, ça vaut, combien ça vaut, voilà combien il s'en est vendu, voilà combien à Beaubourg il est rentré de visiteurs pendant l'année. Oui. Tout est en, tu ouvres la radio, je veux dire, sur beaucoup, enfin, les rares fois où on parle d'art plastique d'ailleurs. Oui, bon, on ne te parle que de ce que ça vaut, du nombre de personnes qui sont venues à l'exposition, etc. Oui, mais tu n'entends jamais de discours sur un plan critique, sur un plan, tu vois, bon, d'évaluation de la qualité. Bon, cela dit, on peut évaluer la qualité et puis se tromper, c'est pas la question. Mais il n'y a même pas cette démarche. Donc je trouve ça très très grave. Et aujourd'hui, bon, en plus dans les arts plastiques, on voit plein de gens qui décident du jour au lendemain qu'ils peuvent peindre, tu vois, qui font trois coups de pinceau sur une toile ou sur un papier et qui tout de suite démarchent dans des galeries pour essayer de vendre et de se faire exposer. Tu vois, bon. Justement,
c'est un domaine où ça peut y avoir, comme tu dis, rapidement, alors que peut-être dans d'autres disciplines, culturelles, je ne sais pas, ou d'autres arts comme la musique, on en parlait, on lit quelquefois, on peut faire gling gling sur une guitare, mais pour du piano, pour jouer du Mozart sans être élitiste, hein, simplement, il faut pas, on peut pas en 3 mois de piano arriver à jouer une symphonie.
Je pense que ça, c'est des matières, si tu veux, où il y a un minimum de techniques obligatoires pour arriver à exprimer quelque chose, qui sont déjà un peu une barrière, quoi. Mais en peinture, en dessin, il n'y a pas cette barrière. Et il y a d'autant moins cette barrière que depuis quand même des décennies maintenant, on est arrivé à expliquer. On parlait de l'art brut tout à l'heure, là, on faisait une parenthèse, mais l'art brut et des choses comme ça ont un peu joué dans ce sens-là. Je critique pas l'art brut, hein, parce que bon, au contraire, même. Mais je veux dire que on a mis en même temps dans l'esprit des gens que il n'y avait pas besoin d'avoir fait d'études, d'avoir, tu vois, pour pouvoir dessiner, ce qui en plus est pas complètement faux,
hein,
parce que moi je défends pas l'institution ou un truc comme ça. Mais après, c'est de savoir qui, en prenant un pinceau du jour au lendemain, va faire une œuvre qui est intéressante et qui ne fait qu'un truc sans intérêt. Or ça, je veux dire qu'on est dans une voie là qui empêche d'arriver à avoir ce jugement, parce que justement toute critique, pour moi digne de ce nom, a été éliminée, et toute contestation de la critique officielle est bannie de toute manière d'emblée, quoi, tu vois.
Mais est-ce que, indépendamment de ce que tu dis, ce côté au fond qui envahit un peu tous les domaines, d'ailleurs pas seulement artistique, qui est le commerce, qui est le fric, qui est la communication, qui est le marketing, etc. Est-ce que le côté provocateur au fond, et puis tout à fait aussi étrange pour le vulgum pecus, pour le simple regardeur, est-ce que ça n'a pas toujours été ça? Par exemple, l'urinoir ou la pipe dont on dit ceci n'est pas une pipe, est-ce que c'est aussi quelque chose dans lequel on peut pas dire qu'il y a une activité créatrice, à part cette espèce d'idée ou de provocation que fait celui qui s'appelle artiste? Alors est-ce qu'il n'y a pas toujours à toutes les époques ce genre de choses?
C'est vrai que la provocation est loin de l'exclure de la création artistique. Je pense que elle est souvent nécessaire. Elle n'est pas toujours consciente. Hein, un type comme Manet, quand il a fait ses premières peintures, lui, il avait qu'une envie, c'est d'être en accord avec son temps, avec le public, avec les autres peintres. Or, il s'est complètement planté, puisque effectivement, il sortait malgré lui de quelque chose qui était tout à fait contesté par son environnement. Bon, mais bon, Picasso aussi a
fait. Mais pour Duchamp, non, juste ouais. Jacques, puisque tu l'évoques par rapport à l'urinoir, c'est ce que t'exprimais au début de l'émission, de dire, il a voulu montrer Duchamp, il n'a pas fait que en disant discours sur l'urinoir, voilà, pour le dénoncer.
Non, mais je pense que le problème de Duchamp, qu'on n'explique jamais complètement et pour cause, puisque c'est quand même une référence à laquelle s'accroche tout l'art contemporain. Je pense que Duchamp, il y avait une démarche très particulière là-dedans, une démarche qui était faite d'ironie, qui était faite de contestation aussi de quelque chose, bon, qui était valable dans un temps et dans une durée relativement brève, mais qui a été complètement récupérée par des gens qui ne contestent rien, qui sont dans un système complètement admis, qui est financé, qui est soutenu. Or Duchamp, c'était pas ça. Bon, il a fait son urinoir, et je pense que quelque part, je suis pas certain que lui-même considérait que ce soit une œuvre d'art.
Non, mais il voulait dire que c'était le discours porter, comme tu l'as dit tout à l'heure,
C'était une contestation par rapport à l'œuvre et à l'espèce de fétichisme par rapport à l'œuvre, l'encensement qu'on avait des œuvres, etc. Tu vois, donc il balançait un truc comme ça pour démolir cette. Mais je pense que ça aurait dû s'arrêter là, tu vois, et que bon, reprendre ça et le reprendre comme la base, si tu veux, de construction de toute une forme de création, pour moi, c'est d'ailleurs il y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire que tous les gens qui sont dans cette voie-là ne contestent rien. Ils font semblant, c'est de la contestation qui est récupérée. Bon, et au-delà de ça, alors tu as la provocation sur laquelle évidemment on peut toujours avoir un étonnement, avoir même un rejet. Mais au-delà de cette provocation, après, pour moi, c'est le temps qui décide. Je veux dire, les provocations faites par des gens qui ont créé le cubisme ou qui ont été dans le surréalisme, bon, eh ben, maintenant, avec le temps, on s'aperçoit de réellement ce que ça vaut. Parce que tout a été débarrassé, si tu veux, des scories de la mode, des idées de l'époque, etc., etc. Or, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on est dans une époque avec une mode et un système qu'on essaye de faire avaler à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il en sera demain, dans 50 ans, dans un siècle? Hein, peut-être que les gens vont hurler de rire quand ils reverront ce qu'on a essayé de d'imposer, si tu veux. Or, moi, je pense qu'en plus, alors, en admettant même que ce mouvement, ce système soit légitime et authentique, en l'admettant, je veux dire que ce qui n'est pas admissible, c'est que ce système étouffe toutes les autres apparences de la création. Et il se passe plein de choses en dehors de ça. Mais plein de choses qui sont toujours marginalisées, que les gens ne vont pas voir parce qu'ils sont pas informés, parce qu'on leur en parle surtout pas, tu vois. Et dès que on essaye de parler de cet autre aspect, en fait, on est souvent même taxé de réactionnaire carrément, quoi, tu vois. Bon, donc là, il y a un truc qui va pas.
Tu crois pas que même ces gens qui effectivement sont simplement soucieux d'être à la mode et de faire du fric, est-ce que tu crois pas que même vont développer l'idée que dans ce qu'ils font, il y a tout de même un embryon de création, de créativité, parce qu'au fond, c'est plus la relation, comme le disait Josy tout à l'heure, entre le celui qui regarde et celui qui propose, qui a fait quelque chose qui peut au fond déboucher sur est-ce que ça correspond à une idée originale, à une création intelligente, intéressante ou non. Donc il y a toujours eu ce phénomène là parce que moi je pense comme c'est vrai que j'ai surtout lu Courbet et Proudhon, leur relation et bien il y a toujours eu le côté un peu marchand, parce que même Courbet, il avait un gars, là je me souviens plus son nom, qui lui commandait ses œuvres et donc je dis pas qu'il travaillait uniquement pour faire plaisir mais en tout cas il y a toujours eu une relation de type commercial.
Oui, non, mais la relation commerciale, c'est encore autre chose, je veux dire, mais il faut savoir non, si là, elle est complètement hyper présente, tu vois, ou si elle est présente d'une manière normale, naturelle. Je veux dire, n'importe quel artiste, légitimement, peut envisager que sa production puisse se vendre, qu'il puisse en vivre. C'est une chose. Oui. Mais de là à recevoir des soutiens qui se compte quand même par milliards pour certaines personnes.
Tu parles des soutiens officiels, c'est-à-dire des ministères ou bien des fondations privées.
Des ministères, des fondations, des gens comme Pinault, comme Arnaud et qui
décident.
Qui décident parce qu'ils ont du fric, de tout miser, de Christie's, de Sotheby's et tous ces trucs-là.
Et pourquoi par rapport au prix et aussi la valeur prix? Parce que là, quand on regarde la fréquentation, on en parlait tout à l'heure des expositions, exposition, il y a une sorte de sacralisation et souvent les gens vont où il y a du monde et donc c'est là où il faut aller et tout un tas de lieux justement où, qui pourraient toucher la curiosité ou la découverte sont totalement délaissés. Alors là aussi que tu parlais par rapport, Jacques, t'évoquais le fait de regarder une œuvre hein, pour revenir souvent ce que dit Dubuffet, c'est le regardeur qui fait le tableau. À condition,
mais il y en a beaucoup qui regardent pas.
À condition, condition que la nourriture, hein, c'est ce que je dis souvent, pour les gamins, si on leur donne à bouffer que du McDo quand ils sont tout petits, élevés à la publicité, est-ce que la manière de regarder après, c'est comme pour le goût? Eh ben, je pense que le goût, quand on leur filera de la merde, ils en redemanderont. Ah ben, parce qu'ils auront été initiés. Clair, hein. Et donc, pour le domaine, exactement, on le voit de la peinture, là, puisqu'on parle de ce matin ou de sculpture, et susciter la curiosité, susciter la découverte, avoir un regard critique, il faut avoir une certaine formation qui n'est plus, qui n'est absolument pas donnée, justement. Où on peut la trouver, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand les médias forment l'opinion, les médias, qu'est-ce qu'ils disent-ils comme discours, justement, on en parlait, tu en parlais sur la culture, eh bien c'est celui-là, hein, c'est extrêmement 2-3 minutes, ça doit aller très vite, on dit regardez, il y a des millions de visiteurs ou des centaines de milliers qui vont y aller, et c'est des œuvres hein, inestimables, donc inestimables par rapport au dollar, par rapport au prix, et donc les sacraliser, et en plus de ça sacraliser, puisqu'on voit les grandes expos, entre guillemets, comment ça se passe ici, en tout cas, ou alors tu dis pour l'art contemporain, et il y a uniquement cette perception-là, et il n'y en a pas d'autre.
Oui, mais d'autant plus qu'elle est soutenue parce que ces gens-là ont accès aux médias beaucoup plus facilement.
Comment se fait la sélection, l'auto-sélection dans les médias par rapport à des gens qui peuvent aller s'exprimer.
Ben bien sûr. Oui. Non, mais je veux dire qu'il y a un certain nombre de journaux que je ne veux pas citer, mais qui vont refuser carrément et systématiquement autre chose qui peut leur être proposée si ça n'est pas justement dans cet ordre de cet art-là, de cette création officielle. Et bon, et ça c'est lamentable. Donc je veux dire, l'opinion publique, elle fonctionne aussi. Elle est orientée par ça. Donc à partir de là, je veux dire que même si les, et moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent mal à l'aise face à ce qu'on leur montre, qui n'osent pas l'exprimer parce que en fait on leur fait tellement honte de rien connaître, alors que je veux dire que je pense que les créateurs dans ce système-là, à la limite, ils sont pas beaucoup plus cultivés hein, souvent, parce que je veux dire que si leur référence elle s'arrête à des générations qui sont juste derrière eux, et puis et donc là il y a un public, je pense, qui est complètement, je dirais, j'ai employé un mot fort, mais qui est complètement cucufié pour moi, tu vois, et qui n'a pas vraiment, qui aspire à quelque chose d'autre, à quelque chose de plus naturel. Bon, alors après, évidemment, c'est d'arriver à faire le distinguo, parce que dans cet ordre d'esprit, hein, on peut aller vraiment de la petite nature morte qui va enchanter des tas de gens, hein, jusqu'à d'autres choses qui sont quand même plus dures et peut-être un peu plus lourdes de conséquences et d'idées, et qui va pas forcément non plus attirer la masse du public, tu vois. Bon, c'est très, je pense que c'est un problème complexe de toute façon. Mais déjà qu'au moins, à la base, il y ait effectivement une culture qui soit diffusée, et un certain nombre de choses qui sont inhérentes à la création artistique et à la création générale peut-être, bon, qui soient vraiment dans la tête des gens. Et c'est vrai ce que tu dis, si les enfants, tout gamins, eh ben on les a gorgés de trucs comme on essaye de nous en imposer continuellement, à l'âge adulte, quel pouvoir ils auront, quel pouvoir critique, on leur donne même pas la possibilité de choisir. Moi, je demande pas plus, tu vois. Qu'on me mette du Jeff Koons, mais qu'à côté on me mette des gens que je connais. Bon, je parle pas de moi hein, parce que ça serait prétentieux. Bon, mais des gens qui font un travail vraiment intéressant, et puis qu'on donne à voir, et puis qu'on le donne, et qu'on insiste, et qu'on recommence, et puis qu'un beau jour les gens se disent ah ben ouais, mais quand même là je me sens plus attiré par ça. Bon.
Alors Bernard, Par rapport à l'heure, alors aussi, puisque ça va assez vite, hein, on reste ensemble jusqu'à...
Je voudrais donner quelques petites précisions.
Jusqu'à 11 ans. Alors, sur l'exposition, et revenir, alors là aussi, un élément, puisqu'on parlait de la peinture, mais en particulier pour la sculpture et ton travail de céramiste, et là aussi, quand même, il y a une formation, c'est pas en quelques heures qu'on peut réaliser, pour les auditeurs, on va le dire, puisqu'on avait été voir donc ton exposition, hein, exposition à Sèvres, et toutes, justement, les œuvres que tu avais réalisées, et là, dans le petit catalogue que tu nous as amené, apporté ce matin, on voit... une œuvre, tranche d'homme tronc, hein, en faïence émaillée.
Oui.
Voilà, c'est ça. Alors, te dire par rapport à ça aussi, de recommander, on va dire ça justement aux auditeurs, que des œuvres de sculpture et en particulier du travail de céramiste, on pourra en voir à cette galerie.
Ah oui, tout à fait, voilà. Oui, bien sûr.
Donc, les œuvres, il y en a beaucoup. Alors, par rapport à la taille de la galerie aussi, l'exposition...
Bon, c'est un lieu qui n'est pas immense, mais enfin bon, tu vois, on va être deux, donc je précise bien, je ne suis pas tout seul. Il y a Pierre Guerchet-Janin, qui lui présente essentiellement des peintures, mais il fait aussi de la gravure. Il va présenter des livres d'artistes et il a notamment fait un livre aussi avec Jean-Noël Queneau qui présentera. Mais enfin, en priorité, c'est surtout le livre qui vient de paraître de Jean-Noël Queneau, illustré par Philippe Rion, qui est président de la Peau de l'Ours, donc sur des haïkus. Donc autour de ça, il y aura un événement le samedi 12 mai, auquel j'invite tous les gens qui seront intéressés par la poésie. Bon, moi, le livre que j'ai illustré pour Jean-Noël, je pense, je sais pas si on aura des exemplaires, mais normalement, je pense qu'on envisagera une signature plus tard. Donc, je précise que la galerie Toute Latitude, donc, est tenue par Anne van der Jacht, qui a accepté de faire une série d'expositions de la Peau de l'Ours, puisque on est plusieurs artistes, il y a eu 4 expositions, celle-ci est la dernière. J'invite tous les gens qui seront intéressés à venir voir le travail de Pierre Guerchet-Janin et occasionnellement le mien.
Ce sont des peintures, on rappelle aux auditeurs, donc pour Guerchet-Janin, Pierre,
ouais.
Et pour toi, des peintures et sculptures.
Peintures et sculptures. Mais lui, il aura aussi des gravures.
Non, il y a deux, je pense.
Et Anne-Marie Guerchet-Janin.
Oui.
Ah, mais Anne-Marie, alors c'est l'épouse de la compagne de Pierre Guerchet-Janin, mais elle a déjà fait une exposition qui a eu lieu donc au mois de mars.
Et c'est plutôt la peinture.
Alors elle, c'est de la peinture, oui, avec Odile Fraché, qui était dans le même cas que moi, comme peintre et céramiste. Donc voilà pour la présentation de l'exposition.
Alors justement, puisque ça, on est, dans la présentation, hein, dans le petit catalogue que tu nous as apporté, hein, donc des artistes, peintres, sculpteurs aussi de l'association. Et là, on rappelle à l'exposition toi et puis Pierre Guerchet-Janin. Et dedans, donc, on dit on va rappeler par rapport à ce qu'on avait dit l'année précédente, hein, dans cette émission, que ton travail, alors, l'homme contemporain, rappelez aux auditeurs, heure et malheur, passion, relation à l'autre, incommunicabilité, de la mutation du corps et de l'esprit. Alors, un questionnement existentiel. Rappelez aussi, alors, par rapport à ton travail, hein, de sculpteur, l'ironie, je vais dire, moi, beaucoup, l'humour, et en même temps, justement, alors, les évocations par rapport à soi, à tes peintures, à ton œuvre. On avait, c'est quelqu'un que l'on connaît un petit peu, et bien, je conseille aux auditeurs, s'ils le souhaitent, d'aller voir sur son blog, Le Poignard Subtil, Bruno Montpied, à l'époque, tu avais fait l'exposition à Sèvres, justement, une petite présentation où il évoquait aussi le travail de Bacon, hein, par rapport à son œuvre, et donc sur ses peintures, et en même temps, alors, l'univers que tu dis de l'homme moderne, pour toi, je crois que c'est important, ne pas communiquer, et aussi montrer l'envers du décor de la surface de cet homme moderne, hein, par rapport à ton travail. Donc les thèmes en sculpture, ce que tu recherches, parce que on peut justement, en abordant les œuvres que tu avais exposées à Sèvres, on le voyait très très bien, du reste, par les titres mêmes de ces œuvres, hein, les titres mêmes de ces œuvres, et aussi ce qu'elles représentent et ce que tu voulais montrer justement.
Mais bon, j'ajouterai quand même une précision. Moi, je ne cherche rien.
Voilà. Bon. Ben c'est bien.
Non, mais je veux dire par là que, si tu veux, j'ai pas une démarche. C'est un peu ce que je crains par rapport à ce que tu as dit, que comprennent les auditeurs, parce que moi j'ai pas une démarche où je me dis bon, je vais montrer l'homme contemporain.
On a ressenti nous.
Oui, oui, non, mais nous, non, voilà, mais ça c'est voilà. Deux choses.
Hein. Oui, exactement.
Bon, projet. Mais donc je cherche pas à montrer l'homme contemporain et puis ses défauts, ce qu'il cache, etc. Tu vois, bon, moi je pars toujours d'un point de vue, en principe, bon, c'est pas toujours exactement vrai, mais d'un point de vue plastique. Bon, et dans la tranche d'homme tronc, si tu veux.
La description, oui. Alors, aux voilà. Auditeurs, juste un petit peu difficile à chaque fois, on le sait, de toute façon, par rapport à la radio, mais la description de cette œuvre-là, on voit l'homme tronc coupé, et on voit, je disais l'envers du décor, puisque une partie de son costume, une veste, une cravate, hein, une petite pochette, et juste en dessous, des boyaux. Donc oui. Les intestins, les boyaux,
que je n'ai pas d'ailleurs dans ma tête, si tu veux, c'était pas forcément des boyaux, mais bon.
Oui, moi je les vois comme ça.
Oui, oui, non,
Jacques,
mais
par rapport à ce que vous voyez, hein, par rapport à l'homme tronc, c'est-à-dire situé page 27 de ton catalogue, hein, le descriptif où on, une partie alors de costume, et puis comme si tu faisais une coupe, et là une radiographie, hein, une radioscopie, je ne sais pas, de voir l'intérieur du corps et la tête. Hein, je veux dire aussi la tête. Là, on évoquait Bacon tout à l'heure, déformée du visage et aussi des parties tranchées de la tête. Voilà.
Mais ce que je veux dire, si tu veux, moi, c'est que, encore une fois, je recherche pas aussi précisément ce que tu décris, parce que je pense que si je le faisais, ça serait la faillite complète. Je à travers, si tu veux, des éléments plastiques ou esthétiques, bon, je fais une création, je cherche des effets de matière, des rapports dans les dimensions, l'occupation de l'espace, etc. Bon, après, que de tout ça, il ressorte autre chose, moi je suis complètement d'accord. Hein. Et je pense que si mon travail a une certaine valeur, s'il reste dans le temps, c'est que à travers ce que j'ai fait, sera passé quelque chose d'un mouvement d'idées, d'une pensée et d'un climat actuel. Mais je pense, si tu veux, que ça c'est des choses qui s'expriment dans ce qu'on on crée, mais un peu malgré soi, si tu veux. Moi, j'ai tendance à répéter. Il y a un copain qui me disait ça tout le temps, que j'étais un grand irresponsable. Mais je pense que c'est une ça, c'est vrai.
Oui, t'as pas intellectualisé ta création.
Non, mais si les gens, alors, ressentent ce que tu dis, mais moi très bien, voilà, je cautionne complètement. Oui. Mais qu'on me demande pas à moi, non. Tu vois, si tu veux, bah, moi j'ai toujours été méfiant par rapport aux gens qui sont embrigadés dans un mouvement, quel qu'il soit, politique ou social ou autre, et qui fonctionnent dans leur peinture par rapport à ça. Quand un écologiste va faire de la peinture écologique, moi ça m'emmerde, tu vois, parce que je pense qu'il passe rien à côté et que sa peinture, elle a toutes les chances d'être vraiment mauvaise. Cela dit, bon, je connais des gens.
On est rassuré pour les écologistes, ils ne font plus d'écologie depuis bien longtemps.
Bon, peut-être qu'ils vont se mettre à faire de la peinture.
Oui, peut-être.
Non, mais je connais des cas, par contre, qui sont des réussites. Ça ne veut pas dire que tout est à foutre en l'air. Mais si tu veux, moi, pour moi, c'est pas un principe de départ et c'est pas un principe de base sur lequel je peux construire quelque chose. Et moi, je me permets tout ce que j'ai envie de me permettre, que ce soit en dessin, en céramique ou en peinture. Mais que à travers ça, il passe quelque chose qui justement impressionne le spectateur, tant mieux. Et qu'il y retrouve quelque chose qui participe de sa vie quotidienne ou de sa de la vie ou de l'atmosphère générale. Bon, très bien.
Voilà. Alors l'autre aspect, alors puisqu'on évoquait la peinture, donc en même temps dans ce catalogue la reproduction, hein, il y a un diptyque, hein, pour les auditeurs, de dire que là aussi on parle d'un format, enfin on va dire c'est un grand format, 194 ouais. sur 130. Et le titre, nous nous sommes tant aimés. Et effectivement, quand on regarde, bon, cette peinture par rapport au titre choisi, là, les formes, si je vois moi deux personnages, là aussi, l'amour, si nous nous sommes tant aimés, et que je regarde la peinture, et en même temps que j'ai le titre en tête, je vois des choses. Que ce que je voulais dire par rapport quand tu as exprimé sur l'homme tronc, là aussi, que l'amour est une tentative, mais que le résultat est un désastre. Enfin, donc, voilà.
Alors on peut le voir de cette façon-là, effectivement.
Voilà, oui. C'est oui. ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la réception.
Mais je vais dire une chose, c'est
que l'on peut regarder, oui. voir.
Moi, en général, les titres, je les mets après la peinture oui. ou la céramique. Oui. Je suis un peu comme le spectateur, finalement. Après, je regarde ce que j'ai fait, et ça m'inspire quelque chose. Bon, mais je fais jamais le contraire. Tu vois, j'ai pas fait une peinture en disant, bon, ça va être, nous nous sommes tant aimés, je vais faire un travail là-dessus. Bon, parce que ça, je pense que j'y arriverai pas. Parce que bon, et ça donnera rien, quoi, tu vois. Donc, ce qui est important pour moi, c'est, effectivement, de faire passer plein de choses qui m'échappent.
Oui.
Et je pense que c'est ce qui échappe.
Oui, là,
qui est
exactement,
important.
Puisque dans cette peinture, enfin moi je le sens comme ça, c'est un thème universel là. Ah alors oui. que l'autre, on pourrait dire un peu la présentation de l'homme moderne, et là c'est le thème universel. Donc cette peinture va bien au-delà de cette représentation de critique qu'on pourrait faire ou le ressenti qu'on pourrait avoir à un moment dans nos sociétés. Alors Jacques, la dernière fois vous avez pour Bernard. Vous vous souvenez donc de l'ensemble de ses œuvres et aussi il y avait quand même moi j'avais trouvé hein, justement par rapport à l'homme moderne un petit peu comme tu faisais des présentations souvent tu faisais des barreaux une sorte de ce que j'avais donc perçu un enfermement, c'est-à-dire que l'homme est enfermé,
oui,
bouclé. Hein. Voilà, Josie, tu as...
Oui, oui, très souvent dans les œuvres de Bernard, moi je vois ça...
Oui, comment chacun... Oui. Voilà, puisqu'on y avait tous été voir, souvenir.
Je n'ai pas vu vraiment le personnage, je l'ai vu que de loin, là.
Oui.
Mais il y a une certaine rigidité, on sent quand même que... Enfin, de loin, hein, c'est ce que ça me fait comme effet. Voilà. Et si ça vous ennuie pas, moi je voulais parler d'autre chose aussi par rapport à la création. Bon, nous anarchistes qui recherchons l'émancipation de tous, c'est aussi justement développer le sens de la création chez l'individu. Et je voulais dire que c'est pas nouveau, mais la société, au contraire, elle tend à nous porter vers une uniformité et, comme tu disais, à étouffer la création des gens. Et je pensais à par exemple l'art officiel d'un mec là qui dernièrement vient de faire encore parler de lui, ces gens nouvelles au niveau de la création, enfin au niveau de la construction.
Oui, architecture. Enfin,
architecture, oui, ouais, parce que
ça,
l'architecture et les architectes sont considérés comme des artistes aussi. Et voilà, donc on est confronté à de nouvelles tours qui vont être construites par gens nouvelles. Et je me disais, on est loin de la création, comme on a vu par exemple dans l'art brut, où cette femme avait, je sais plus son nom, Gérard, peut-être tu nous le rappelleras, cette femme qui avait tout arrangé chez elle, peint sur les murs, en Italie,
oui.
voilà.
En Italie,
oui. Donc une création tout à fait singulière et donc on est bien loin de ça quand on traverse les villes et tout, de voir des constructions architecturales qui est une espèce de cohésion avec les gens qui habitent les maisons, quoi. On est dans une uniformité totale, quoi.
Une caserne.
Voilà, une sorte de caserne.
Oui, oui.
Oui,
c'est,
voilà, j'ai extrapolé un peu par rapport à l'architecture.
Alors, juste Bernard, une précision, puisque là, le monde libertaire de ce jour, ça tombe bien, il y a une exposition en ce moment, on va le dire aux auditeurs, donc il y a un article de 2 pages sur Artemisia Gentileschi. Leschi ou Leschi, hein, comme on veut pour la prononciation. Et actuellement, c'est au musée Mayol jusqu'au 15 juillet 2012. Alors, la particularité, c'est une femme peintre et une des premières au XVIIe siècle. Alors là, les représentations, ce qui est les reproductions plutôt de ses œuvres dans le monde libertaire, il y a des thèmes habituels, hein, puisqu'il y a Cléopâtre. Je crois qu'il y en a une... Il y en a le souvenir que j'ai, c'est des grands formats. Et aussi, alors là, la particularité, on parle du baroque en peinture. Et aussi, le positionnement, c'est qu'il n'y avait pas de femme peintre. C'est la première femme peintre, hein, de l'histoire, apparemment, pour ces grands thèmes, ces grands formats.
La première femme autorisée, quoi.
Autorisée, hein, c'est ça, oui.
Enfin, la première, je ne sais pas.
Bon. Ouais. Oui, mais par rapport à ses œuvres, oui. qu'on aurait d'exposition, en tout cas, puisque là, on pourrait voir des séparations entre les artistes, hein, femmes et hommes, au travers de l'histoire. Donc là, c'était une première, apparemment, hein, puisque au musée Mayol, de faire cette proposition sur des formats, justement, et sur des thèmes qui n'étaient réservés qu'aux peintres, aux artistes masculins.
De toute façon, ça a suivi l'exclusion des femmes pendant des siècles, qui a eu lieu à d'autres niveaux. Par exemple, pour entrer aux Beaux-Arts, c'est qu'à partir de la fin du 19e siècle qu'on a autorisé des femmes à rentrer à l'école des Beaux-Arts.
Hein. Oui, puis c'est ce qu'on connaît aussi, parce que qu'est-ce qui nous prouve que les dessins, les peintures, les fresques des grottes de Lascaux n'ont pas été faites par des femmes, tout autant que des hommes?
On peut se poser la question.
Par rapport à la hauteur, les hommes étaient beaucoup plus grands et les femmes. Donc on voit la hauteur des œuvres que les femmes n'ont pas du tout peint sur les grottes de Lascaux, petite taille qu'elles pouvaient avoir à l'époque. Non, évidemment. Et là, pour cette exposition, la cité, hein, c'est une première un petit peu et aussi marquer ce que tu dis. Enfin, pour les différences, hein, les différences aussi, l'entrée dans des grandes écoles et à la fois pour des professions aussi, hein, qui étaient réservées qu'aux hommes et pas du tout. Ça, c'était, je voulais, puisque montrer que le monde libertaire et en particulier s'intéresse à l'art, justement, puisque c'est dans le monde libertaire de ce jour. Et moi, je vous recommande, j'ai vu quelques reproductions, hein, d'Artemisia. Donc, je vous encourage à aller voir, si vous êtes sur l'île de France, à Paris, cette exposition, justement, jusqu'au 12 juillet au musée Mayol. Et entre-temps, donc, plus près de nous, cette exposition-là, donc on l'a rappelé tout à l'heure, on va en reparler, terminer justement, puisqu'il nous reste quelques minutes, par rapport au lieu, donc à la galerie Toute Latitude. Ça sera 38, hein, c'est au 38 avenue Franklin Roosevelt à Vincennes, à partir, c'est ce qu'on dit, du 3 mai jusqu'au 13 mai, donc Bernard et Pierre Guerchet-Jeannin. Et donc, la possibilité aussi peut-être de cet ouvrage, hein, tu nous as dit tout à l'heure, illustrer un quinquennat d'un plouc chez les bobos, ouais. Un titre quand même.
Et surtout, plus sûrement, le livre d'Haïku.
Oui, d'Haïku.
Illustré par Philippe Rion, avec une préface de Marianne Rion. Donc, sur des haïkus de Jean-Noël Queneau. Voilà. Et ça sera présenté le samedi 12 mai. Ça sera après le
samedi 12 message. Mai, d'accord. Après le, exactement. Enfin, donc 3 au 13 mai, ça se terminera. Voilà. Hein, sur la possibilité. Donc,
Je précise qu'il y aura une lecture donc des poèmes haïkus par Jean-Noël Queneau et des improvisations chorégraphiques de Christine Zingmal. Donc, dans le même temps, pour accompagner cette lecture.
Alors Bernard, là on arrive à donc, la fin de donc l'entretien. Aussi ton activité, il y a, on parlait de céramiste, sculpteur, peintre, mais aussi il y a quelque chose que tu essaies d'organiser ou que tu fais par rapport à des expositions. Là c'est pas des expositions, mais de la musique, du jazz, dans oui, des lieux, un lieu parisien. Donc tu peux en parler.
Alors justement, là, enfin, j'organise où c'est des gens à qui je prête le lieu qui organisent. Donc jusqu'à présent, je dirais presque permanente, c'est un groupe de jeunes musiciens de jazz qui viennent répéter et qui organisent épisodiquement des concerts dans mon lieu. Donc c'est le groupe Umlaut. Et ils sont donc
allemands.
Non, ils sont pas allemands. Ils sont
c'est Umlaut qui me faisait.
Oui, mais tout à fait. Mais ils sont plutôt, je dirais, internationaux parce que bon, il y a
l'instrument, les instruments. Alors ils jouent.
Alors il y a. Excuse-moi, j'ai des trous de mémoire. Non, malheureusement, il n'y a pas de piano. Enfin, il y a un succès d'année de piano, si tu veux, mais dans le.
Il y a un saxo, il y a une trompette, peut-être.
Ouais. Alors, il y a Antonin Gerbal qui est contrebassiste. Oui. Il y a Joël Grippe qui. Pas contrebassiste, j'ai percussionniste.
Percussionniste.
Joël Grippe qui est contrebassiste. Oui. Pierre-Antoine Badarou qui est saxophoniste. Il y a Evry Serre qui est pianiste. Il y a les noms m'échappent, il va m'en vouloir parce que.
Non, mais c'est pas grave.
Bon, enfin, voilà.
Et là, interprétations donc des morceaux, donc c'est des créations pour eux. Non,
c'est mon. Ah oui, c'est des créations. Voilà. Oui,
justement,
fait,
dans cette recherche pour les auditeurs, c'est de leur recherche de jazz sur le jazz, non, de
ah oui, sur le jazz et sur, ce qu'on pourrait raccrocher à de la musique classique d'une certaine manière, oui. Oui, c'est quand même assez diversifié, quoi. Donc, je savais pas qu'on allait parler de ça parce que alors j'ai rien pris comme documentation.
Bah, tu nous donneras les informations.
Il y a un concert jeudi.
Justement, c'est relié justement à ça.
Il y a un concert jeudi 26, qui est organisé par Bertrand Gasteau, qui est un ami.
Oui.
Mais comme ma mémoire est vraiment très.
C'est ce soir. Voilà.
Et je n'ai pas la, si j'avais su, mais j'ai pas la documentation pour dire donner les noms des artistes.
Et l'adresse,
c'est 47 rue Polonceau.
D'accord, 47 rue Polonceau, 18e.
C'est à 20h dans le 18e. Voilà.
18e,
voilà,
c'est ça.
Ceux qui habitent,
mais je suis désolé vraiment, alors là, de ne pas avoir pensé du tout à ça. Je m'étais orienté complètement autrement.
Il
faut dire que quand même c'est une activité très annexe, très épisodique, je le signale bien, parce que je veux pas qu'on me prenne pour une salle de concert, ce qui n'est pas le cas, c'est dans mon atelier, donc c'est un truc convivial.
C'est ça.
L'importance,
puisque c'est pour ça que je te rappelais ça peut-être, mais tu le sais, l'exposition que tu avais réalisée à Sèvres, il y avait justement des parties musicales.
Ah oui, tout à fait. Il y avait une partie musicale qui était une création d'après des standards du jazz.
En même temps, en rapport avec l'exposition, donc absolument. L'importance de rebond et de correspondance.
Parce que à travers le groupe qui forme l'association, il y a aussi d'autres groupes organisés avec certains éléments de l'association et pas d'autres. Et là, ce que j'avais passé à Sèvres, c'était Pépin Tom, donc c'est un groupe qui est formé entre Joël Grippe, Antonin Gerbal et Pierre-Antoine Badarou.
Ouais.
Donc, c'est ce que j'ai passé, effectivement, presque en continu à mon expo à Sèvres. Voilà. Donc, c'est une musique que j'aime bien, qui me surprend des fois moi-même.
Enfin, oui. On n'a pas d'extrait, là. C'est vrai qu'on aurait pu.
Mais c'est pareil pour la musique. C'est aussi des gens qui ne peuvent se produire que dans des endroits en marge.
C'est ça.
Donc, qui sont aussi. Pour l'instant, ils se retrouveront pas au New Morning ou dans des lieux comme ça, quoi, tu vois.
Exactement. Ouais.
Donc, c'est le même problème que ce qu'on a exposé sur la création artistique en peinture.
Voilà. Bernard, voilà. Thomas, Roudex, écoute, on te remercie. On avait dit.
On mettra tous les liens sur le blog de Chronique Hebdo.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, inviter les auditeurs à. On rappelle, cette exposition à partir du 3 mai à la galerie Toute Latitude, 38 avenue Franklin Roosevelt, à Vincennes. Voilà Bernard, et bien l'émission pour les auditeurs, et bien tout à l'heure après quelques petites parties musicales, voilà. Et bien nous ferons quelques commentaires de l'actualité d'un point de vue libertaire. Certains disent nous on préfère plutôt anarchiste. C'est à vous de voir et d'entendre, surtout en restant à l'écoute de Chronique Hebdo et de Radio Libertaire.
Alors moi je vais vous faire écouter la voix de Topor quand même pour terminer. Qui cite un proverbe chinois qui dit « L'expérience, c'est comme un peigne sur le crâne d'un chauve. » Voilà. Alors, les auditeurs...
Illustration voilà, musicale, sonore.
Et puis, si vous voulez téléphoner et parler à Bernard Thomas Roudaix...
Au numéro du studio, rappelez
voilà, 01-43-71-89-40.
Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup et qui dit « L'expérience est un peigne pour les chauves. L'expérience est un peigne pour les chauves. Pour les... »
Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête, les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous saurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde.
J'aurais pu faire fortune, j'aurais pu mal tourner, travailler pour les prunes à longueur de journée. Devenir chercheur d'or, mineur en Colombie, trappeur au Labrador ou voleur de rubis, ramasser des lentilles, faire le zouave à l'armée, vivre derrière des grilles ou des vitres fumées. Ça ne tient qu'à un fil, un galon d'officier. Ça ne tient qu'à un fil, une chaîne en acier. J'aurais pu faire des frites ou des barbes à papa, lire une pièce interdite, dire ce qu'il ne faut pas, aller damer les routes, étaler du goudron, respirer le mazout ou suer du charbon, filer de ville en ville, devenir un matin journaliste en exil ou tailleur clandestin. Ça ne tient qu'à un fil, une étoile en tissu. Ça ne tient qu'à un fil, un chemin sans issue. J'aurais pu faire le clown, Père Noël ou Pochard, finir dans un saloon, cow-boy chez Jean Richard, devenir homme sandwich, revendeur de tickets, gentil toutou caniche, ou lapin chez Mickey, balayer le bitume, circuler sans histoire, ou chercher les légumes sur le bord du trottoir. Ça ne tient qu'à un fil, un mot sur un papier. Ça ne tient qu'à un fil, une vie de va-nu-pied. Ça ne tient qu'à un fil, un mot sur un papier. Ça ne tient qu'à un fil, une vie de va-nu-pied.